C'est véritablement un cas d'espèce. Certains le nourrissent, mais nous l'aimons rarement, au point de ne pas le voir comme un oiseau, a fortiori comme un élément de la biodiversité de notre quotidien, le pigeon. Anne-Caroline Prévost-Julliard, chercheure au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle en Biologie de la Conservation, coordonne un projet interdisciplinaire très sérieux sur le pigeon en ville.
Je crois que c'est la seule espèce qui est si étrange que ça, qui a ce rapport-là avec l'homme. Et du coup, mon hypothèse, c'est que c'est parce qu'elle est issue de la domestication et qu'ensuite, elle a échappé au contrôle qu'on a voulu exercer sur lui, puisqu'il n'est pas resté dans les parcs quand il fallait qu'il reste dans les parcs pour être une espèce sauvage. Il a continué à se reproduire vite fait quand on voulait qu'il ne se reproduise pas. Et du coup, il n'est pas gentil parce qu'il ne fait pas ce qu'on lui dit de faire. Du coup, il est mal vu.
Un cas d'étude édifiant que la relation entre l'homme et la biodiversité en ville, chez l'homme donc, pas sûr que le cas d'espèce soit le pigeon. Une chose de sûre, à l'époque où il nous servait à quelque chose, nous l'aimions bien, ce pigeon.
Dans les années 20-30, les relations étaient assez positives. Le pigeon avait une bonne image, y compris le pigeon qu'on voyait dans les villes, parce qu'il avait une image de pigeon domestique utile à l'homme, que ce soit au niveau symbolique, puisque finalement, le pigeon, c'est la colombe.
Vive le progrès! Mais ce chameau de pigeon qui ne nous sert plus de téléphone n'a pas périclité.
Le pigeon urbain, il est issu des pigeons domestiques, donc des pigeons bisets qui avaient été capturés depuis des millénaires, depuis l'apparition de l'homme, pour des fins alimentaires ou de pigeons voyageurs, c'est lui, le pigeon de concours, c'est lui. Et avec la fin de la captivité des pigeons, notamment après la Première Guerre mondiale, les pigeons ont colonisé les villes, mais à partir de souches domestiques. Et du coup, on peut penser que c'est à cause de cette histoire domestique que les relations du pigeon à l'homme sont biaisées par rapport aux relations que l'homme peut avoir avec d'autres espèces animales plus sauvages.
Qu'à cela ne tienne, le pigeon que l'on croit bête a troqué la verticalité de ses falaises originelles par celle de nos habitations et, contrairement à ce que l'on pense, ne prolifère pas du tout comme un lapin. Il se concentre là où on le nourrit illégalement, ce qui n'a rien à voir. Mieux, il ne transmet pas spécialement de maladie à l'homme. Serait-ce alors l'homme qui recourt à la méthode bien connue de qui veut tuer son chien l'accuse de la rage?
Actuellement, l'image est, dans les villes françaises, extrêmement négative. Les causes principales qui sont données sont des raisons d'hygiène ou de surpopulation, qui ne sont pas forcément valides au niveau scientifique, puisque les populations de pigeons en France n'ont pas augmenté pendant ces 10 dernières années. Le pigeon, il est peu porteur de maladies transmissibles à l'homme, beaucoup moins que les chiens ou les chats. Ces raisons sont scientifiquement pas valides, mais il faut les comprendre au niveau de la perception des gens et du symbolisme.
La biodiversité en ville n'est pas figée, pas plus qu'ailleurs. Et c'est peut-être ce qui nous agace, le pigeon n'obéit pas. Le Muséum National d'Histoire Naturelle travaille sur le sujet, beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît à première vue. Scientifiques et collectivités publiques travaillent ensemble. Daniel Martel, directeur du développement durable de la ville de Clichy. Clichy, 58 000 habitants dans les Hauts-de-Seine, en lisière de Paris, où se tenait cette conférence avec les chercheurs venus à la rencontre du public dans le cadre de la Semaine du développement durable. Daniel Martel.
Un vrai challenge, parce que quand on est directeur de développement durable, on est un technicien de la planète. Nous sommes des techniciens, pour ceux qui sont directeurs de développement durable dans les villes, capables de sensibiliser un maximum d'habitants, d'associations, d'entreprises. Je dirais que je suis un peu en décalage par rapport à ce que je dis, parce que quand on parle de sensibilisation, c'était dans les années 2006-2007, bien après les rapports de Brundtland, bien après Rio de Janeiro et Johannesburg. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la sensibilisation. Aujourd'hui, il y a les lois Grenelle qui font que on est dans l'application du développement durable. 2050 pour la division par 4 des émissions d'effet de serre. 2002 pour le plan de prévention du bruit dans l'environnement et le plan climat. Il y a vraiment des dates butoirs et ce sont des obligations pour les villes.
Le développement durable, les petits gestes, c'est bien, oui, mais la mission a changé de dimension.
Autrefois, quand on parlait de développement durable, on parlait de sensibilisation. On disait, ce serait bien qu'on économise l'eau, ce serait bien qu'on fasse du compost. Bon, encore le compost, c'est quand même assez nouveau. Mais bon, il y a des tas d'exemples comme ça où on demandait aux gens ce serait bien de faire. Aujourd'hui, c'est plus du tout le même contexte. Aujourd'hui, on est dans l'obligation, on est dans des lois, on est dans un autre profil. Il faut évoluer sans arrêt. C'est un peu comme un médecin, vous savez, qui doit évoluer par rapport aux maladies, par rapport aux médicaments. Donc nous, on est un peu des généralistes du développement durable. On est là pour faire avancer les choses. Parce que si nous, parlons franchement, on a fait quelques conneries par le passé, aujourd'hui, il faut que nos générations futures ne les fassent pas.
À nos chers ou détestables pigeons, nous préférons les abeilles. Alors que nous avons une idée contrefaite du pigeon, nous connaissons à 90% le problème des abeilles. Vous le savez, l'abeille meurt dès qu'elle pollinise une fleur aux pesticides. Or, l'abeille meurt beaucoup trop, à nos risques et périls d'ailleurs. Cela aussi, nous l'avons compris. Estimation en forme d'humour d'Henri Clément, apiculteur dans les Cévennes et porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française. Imaginons notre petit déjeuner sans le boulot préalable des abeilles. Eh bien, au revoir le café, au revoir le chocolat au lait ou pas, au revoir le beurre, au revoir le miel évidemment, la confiture il va de soi, il reste le pain aux céréales contaminées. Cela ne donne pas tellement envie de se lever. L'abeille, point de mire de notre attention nouvelle, c'est récent, depuis 5 ans, à une petite erreur près qui s'est inopinément glissée. Nicolas Géant, apiculteur parisien.
C'est toujours une très grande curiosité pour les gens qui sont étonnés qu'il y ait des abeilles dans Paris, alors qu'il y a toujours eu des abeilles à Paris. Il y a beaucoup moins d'abeilles qu'auparavant, qu'il y a un siècle ou deux. Avant, il y avait beaucoup plus d'abeilles dans Paris, comme dans toutes les villes d'ailleurs. Chaque foyer a besoin de ruches pour faire son miel, mais c'est toujours aussi insolite et les gens sont étonnés que l'abeille se porte si bien en ville par rapport aux zones cultivées. Il y a deux principales raisons à ça qui sont la biodiversité et la pollution. Biodiversité, on retrouve, que ce soit à Paris, New York ou toutes les grandes villes, une diversité qu'on a perdue dans nos zones cultivées où vous avez 30 hectares de blé, 30 hectares de maïs, 30 hectares d'orge, vous n'avez plus de bois, plus de haies, etc. Donc plus de fleurs, pour nous, c'est un peu le désert vert. Alors qu'en ville, dans toutes les avenues, les parcs, les jardins privés, les jardins publics, les balcons, vous avez énormément de fleurs. À tel point que moi, ici à Paris, en plein cœur de Paris, je fais 3 fois plus de miel qu'à 20 km dans la grande plaine de Versailles, dans les zones céréalières. Donc ça, c'est la première raison, la biodiversité. Puis la deuxième raison, c'est la pollution. Certes, on parle toujours de la pollution des voitures, mais c'est rien par rapport à tout ce qui est insecticides, fongicides, pesticides qui tuent en masse les abeilles dans les zones cultivées.
Nicolas Géant a 300 ruches dans Paris. Il s'est géographiquement reconverti après la région d'Orléans, la barrière de Clichy. Aujourd'hui, Paris, il a déménagé pour pouvoir exercer toujours le même métier.
J'ai plusieurs métiers en apiculture. Je suis éleveur d'abeilles, donc je produis des essaims pour pouvoir livrer partout en Ile-de-France les particuliers qui souhaitent avoir des ruches au fond du jardin, sur leur toit, sur leur balcon ou autre. Ça, c'est mon premier métier. Deuxième métier, je suis aussi ce qu'on appelle apiculteur urbain. J'ai des ruches en ville sur le toit des entreprises. Et un troisième métier aussi, j'ai des magasins pour les apiculteurs pour acheter la combinaison, les ruches, tout le matériel d'extraction.
Le miel de Paris est délicieux, à 28% avec un goût de citronnier, de mandarine et d'orange. Entre Paris et Menton, la différence, a-t-on envie de dire, c'est juste le pot. Car, par parenthèse, et cela aussi on le sait bien, la biodiversité contemplée à l'état des fleuristes est parfois renversante. Vive les balcons et les pots d'échappement quand même, le terreau en quelque sorte, car un apiculteur est un agriculteur, de Nicolas Géant s'appelle Guerlain, le Grand Palais, le toit de l'Opéra et même la BNP.
Vuitton, Guerlain, la Tour d'Argent, BNP, Groupama, etc. Beaucoup d'entreprises maintenant souhaitent avoir des abeilles.
Le miel, un capital de santé tel que les bons placements sont importants donc. Les Français en mangent relativement peu, 600 grammes par an contre 3 kilos pour les Allemands. Il est d'autant plus aberrant que la France en soit à devoir importer son miel. Avis aux amateurs, il y a vraiment des débouchés dans le métier. Très bel exemple, en tous les cas, non pas à Clichy, où l'on sait voyager, mais en Syrie, Henri Clément.
Dans certains pays, le miel est une denrée très noble. Par exemple, en Syrie, où j'ai de nombreux amis, le miel vaut entre 16 et 18 euros le kilo. Le salaire, c'est autour de 80 euros. Donc les apiculteurs sont professionnels avec 50 ruches. Et avec une tonne de miel, ils font vivre la famille. Avec 2 tonnes, ce sont vraiment quasiment les rois du pétrole. C'est à l'opposé, par exemple, de l'apiculture américaine, qui est vraiment dans l'intensif absolu, avec des apiculteurs qui ont 10, 20, 30, 40 000 ruches, où les abeilles sont du bétail, et où la relation entre l'homme et l'abeille a d'une certaine façon disparu.
L'homme apprenti sorcier de la nature, même pour en réintroduire les mécanismes qui l'intéressent. À l'opposé de ce contre-exemple, le fleuve Niger, l'Afrique, le berceau de l'humanité, le Niger, l'un des 3 grands fleuves du continent. L'homme a jusqu'à présent entretenu une relation forte avec une nature pourtant synonyme de crue meurtrière. Qu'adviendra-t-il à cet égard après son anthropisation? Bernard Surugue, cofondateur et premier vice-président de la fondation Jean Rouch, avec qui il a collaboré pendant plus de 30 ans.
La boucle du Niger, qui est un haut lieu de la civilisation et de traditions très ancrées dans la pensée, dans les systèmes de pensée des populations qui vivent avec ce fleuve. Les hommes ont su s'arranger des difficultés du milieu. Ça veut dire que quand un drame se passe, par exemple si la foudre tue, et dans ce cas-là, on va interroger, on va convoquer le représentant de ce qui s'est passé, c'est-à-dire le dieu de l'éclair, le dieu du tonnerre, celui de la pluie, celui du vent. On va réunir toute cette famille-là et avec des moyens différents. Ça peut être les danses de possession quand on est dans la sphère son rail. Ça peut être des masques quand on est dans le monde Dogon ou Bambara. Il y a une représentation symbolique de ces phénomènes naturels, mais qui sont extrêmement violents. Il faut savoir, faut apprendre à les supporter, sinon on ne tient pas le coup. Et les hommes ont su justement établir cette relation d'un dialogue, d'établir le dialogue avec les divinités, ceux d'en haut, pour savoir mais pourquoi vous avez tué. Et en général, on trouve justement cette intelligence-là, enfin, le génie humain est capable d'identifier de bonnes réponses. Des réponses plausibles en tout cas, qui font que finalement on retrouve une certaine paix et on peut continuer à vivre dans un milieu qui n'est pas forcément très confortable, hein, qui n'est pas forcément très facile, mais en tout cas qui est très beau. Ça fait beaucoup penser, encore une fois, à la mythologie grecque. Je trouve que c'est plutôt sympathique comme approche du monde.
Il est indéniable que la construction de barrages soulagera des populations en butte alternativement à la sécheresse et aux crues. Néanmoins, le lien entre l'homme et la nature est rapidement étrangement ténu. Annabelle Galinier, adjointe au maire de Clichy en charge du développement durable.
Faire que le développement durable devienne simplement un mode de vie, une notion intégrée, qu'on n'ait plus besoin de le dire et d'y faire référence perpétuellement.
Allez, petite indiscrétion au passage, que font nos élus de la couronne parisienne pendant leurs vacances? Eh bien, ils franchissent la barrière du périphérique, oui, mais plutôt en direction de l'Arctique.
Très impressionnant, déjà la masse que ça représente, les formes que la nature lui donne. J'en ai vu un qu'on aurait dit un énorme poisson, mais c'est surtout la couleur, de voir l'iceberg bleu. Jamais on s'imagine qu'un iceberg peut être bleu ciel. Je pars avec mon fils et là, je vais faire un voyage développement durable. Je vais loger chez un fabricant d'huile, chez un vigneron, chez un producteur de fruits bio.
Décidément, l'homme et la nature, toute une histoire, pourvu pour l'homme qu'elle dure, même en ville, même avec le pigeon. Parce que pour le détester à ce point, c'est tout de même à se demander quelle mouche nous a piqué. Thank you.